remercie pour ce que tu veux dire. On veut te remercier parce que ta présence est avec nous. On veut te rendre gloire pour tout ce que tu fais dans la vie, parce que tu prends soin de nous dans toutes les situations possibles. Père Céleste, je veux te remettre la parole qui va être partagée ce matin, que ça puisse être encourageant, Jésus, pour les gens qui sont venus ici ce matin, pour qu'on puisse tirer quelque chose dans nos vies, une leçon, Seigneur, un moment d'enseignement, un encouragement, une leçon spirituelle, Seigneur, qu'on puisse juste pouvoir s'évoluer, se réaliser, parce que on le fait avec toi, dans ton nom tout puissant, Jésus. Amen. Amen. Alors, Clémentine, tu veux bien faire signe quand la photo est prête? Ok. Alors, donc, comme je le disais, j'étais allé là-bas pour la modique somme de 45 euros aller-retour. Merci Ryanair. J'avais trouvé un vol pour partir de lundi à mercredi. C'est pas cher, hein, c'est comme le bus. Pour me changer les idées et visiter l'attraction la plus visitée au monde. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Voilà, c'est la Guinness Factory à Dublin. Qu'est-ce que c'est la Guinness Factory? C'est une bonne question. On est belges dans la plupart de la pièce, donc on peut parler de la bière le dimanche matin. On a des moines et des abbayes qui nous font, qu'on peut visiter pour apprendre comment la bière belge est faite. En Irlande, c'est la bière Guinness qui a marqué le monde, car en 2016, ils ont eu plus de 16 millions de visiteurs dans leur centre de fabrication. Ils ont un bâtiment absolument énorme où on peut voir tout le processus. Pour mettre ça en perspective, l'aéroport de Dublin a accueilli en 2016 28 millions de passagers, c'est-à-dire que presque 2 passagers sur 3 ont été visités la Guinness Factory, donc c'est quand même une attraction, une attraction locale. Une autre raison de ma visite en Irlande était de visiter les bâtiments de Google. Ah, non, faut pas encore l'afficher. C'est trop tard, vas-y. Oh là là. Voilà, beau paysage. Donc une autre raison de ma visite en Irlande était la visite des bâtiments de Google, leur centre d'opération mondiale. Est-ce que certains utilisent Google ici en Belgique? Ouais, tout le monde, Gmail, voilà, tout le monde, hein, voilà, ouais. Ils ont toutes nos informations. J'ai été visiter leur bâtiment là-bas. Adam connaissait quelqu'un qui travaillait, on a pu entrer dans le bâtiment, avoir à manger gratuitement, c'était vraiment impressionnant. De voir toutes ces personnes qui sont fascinées par la technologie. Et alors, je vois certaines de vos têtes qui se demandent quelle activité spirituelle j'ai fait à Dublin, quelle mission est-ce que j'ai fait actuer, quelle église est-ce que j'ai visitée. Eh bien, aucune, c'était des vacances. Est-ce que c'est ok pour que les pasteurs prennent des vacances pendant 3 jours? Je ne sais pas si je pouvais en parler. Mais des circonstances extraordinaires ont malheureusement bloqué mon départ et retour en Belgique. Une tempête de neige s'est déchaînée sur l'Europe, je ne vais pas vous la prendre, hein, le verglas a tout bloqué ici vendredi, et l'Irlande ne fut pas épargnée. Dans la journée qu'est notre vie, on peut souvent se sentir accablé par les circonstances, mais la main de Dieu reste présente. Amen. Je vais vous lire le post que mon ami Adam a mis après plusieurs jours à Dublin, nous sommes rentrés hier. Je suis arrivé ici tard au soir. Voici ce qu'il dit. À Dublin pour 8 jours, dont 5 nous étions bloqués à cause de la tempête de neige. Enfin, nous rentrons à la maison. Merci à vous tous pour vos messages. Voici une photo de célébration de Benjamin et moi. Et la voilà. Voilà. Alors, si vous vous demandez, Adam est à gauche et moi je suis à droite. Voilà, parfait. Merci Clémentine, c'est gentil. Je vous invite à prendre la parole dans 1 Pierre au chapitre 5. À partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors dans notre rencontre avec Dieu, dans le moment où on décide de le suivre, de s'intéresser à lui, d'apprendre à le connaître, on a ces étapes où on apprend de plus en plus à connaître qui est Dieu, où on apprend de plus en plus à découvrir qui il est, comme si on découvrait une nouvelle personne. Découvrir qui est Jésus, c'est rencontrer quelqu'un, une personne qui a des sentiments, des avis, des choses à nous dire, et c'est quelqu'un qui va toujours nous parler d'une façon encourageante. Et Jésus, Dieu, à travers la lettre de Pierre, nous dit ceci, que le Dieu de toute grâce, après des moments de souffrance, va nous perfectionner, nous affirmer, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Alors je trouve que c'est quand même une magnifique promesse de pouvoir se tenir là-dedans, de se dire, ah, est-ce que quelqu'un a déjà vu des circonstances difficiles dans sa vie? Je pense qu'on peut tous dire oui, ça va, c'est pas trop difficile, voilà, donc ça c'est les cartes qu'on a tous reçues dans la vie. Mais est-ce que tout le monde a reçu cette carte qui s'appelle Jésus, cette relation avec Dieu, où apparemment le Créateur, le Dieu de l'univers, décide de venir s'impliquer dans la vie et de nous dire, je vais m'occuper de tes besoins, je vais m'occuper de toi. Le contexte historique, c'est important de voir dans quel contexte Pierre, donc la personne qui écrit ce livre, ça s'est passé il y a longtemps, hein, c'était vers les années 67, pas 1967, mais juste 67. Il y avait sans doute une persécution d'un empereur romain qui s'appelait Néron, qui a décidé de tuer tous les chrétiens. Et cet empereur romain donc a commis des actes atroces, dont il a mis la ville en feu, et il a ensuite fait accuser les chrétiens de la ville. On a des records historiques. Et donc, Pierre écrit à ces gens-là, qui sont vraiment sous une pression énorme, leur vie est mise en danger, ils voudraient bien parler de leur foi, pratiquer leur foi publiquement, mais on les accuse, on veut les poursuivre, les tuer, ils se retrouvent mêlés à une histoire politique. Et voici ce que Pierre dit, il dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » La main puissante de Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être cette main puissante de Dieu ? La main puissante de Dieu nous parle de cette partie de nos vies dans laquelle Dieu agit et prend véritablement soin de nous. C'est pas une main physique quand la Bible parle de la main de Dieu, mais c'est un climat spirituel. C'est un climat spirituel dans lequel on doit se trouver pour réussir la vie comme Dieu l'a voulu. Quand on décide d'accepter cette relation avec Dieu, d'accepter d'apprendre à le connaître, c'est pas quelque chose qu'on peut juste expliquer, c'est pas quelque chose qu'on peut juste savoir, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Une rencontre avec Dieu, ça se vit à partir de l'intérieur. Et on commence à découvrir qui il est, on commence de plus en plus à être apte à sentir sa présence. Et on grandit de jour en jour en connaissance de qui il est. Et on a le choix de pouvoir rester sous sa main là où il prend soin de nous. Et comment est-ce qu'on peut rester sous sa main? Ce climat spirituel dans lequel on peut se trouver. Dieu, il a dit que sa main avait délivré le peuple d'Israël des Égyptiens. Les Égyptiens avaient capturé, il y a des milliers d'années, dans le livre d'Exode, on peut lire cette histoire, avait mis les Hébreux en esclavage, ils étaient véritablement pendant 400 ans les esclaves des Égyptiens, ça n'avait pas commencé comme ça, ils étaient juste immigrés, mais avec le temps, il y a une séparation qui s'est faite entre ces immigrés, ces enfants d'immigrés et les Égyptiens de pure souche, et ce sont devenus des gens de basse classe sociale. Et il crie à un moment donné à Dieu, il demande à Dieu de le délivrer et Dieu se souvient de ses promesses, c'est ça que la parole nous dit, et décide de délivrer le peuple d'Israël par sa main. Par sa main, Jésus a béni les pains et les poissons pour nourrir 4000 et 5000 personnes, hein, c'est raconté dans les évangiles. Certaines choses de l'histoire, on a l'impression qu'elles ont été guidées par la main de Dieu, elle est active dans nos vies. Est-ce qu'on peut être heureux d'être sous la main de Dieu? Est-ce qu'on en est conscient? Quand Pierre s'adresse à son public dans la lettre, il dit à tous ceux qui sont cassés, déprimés, démunis, reste sous la main protectrice de Dieu. Reste en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, ce n'était pas juste quelqu'un qui venait de rencontrer Dieu, quelqu'un qui était nouveau dans la foi, qui se posait des questions. Non, il avait vécu des choses. Pierre était d'une certaine maturité. Il avait marché avec Dieu pendant des années. Il avait eu une expérience avec lui qui rend ses conseils très pertinents pour notre vie. Pierre, c'est la personne qui a renié Jésus. Pierre, c'est la personne qui a fait des erreurs. Qui a dit, moi je ne connais pas cet homme qui va mourir sur la croix. Pierre, c'est cet homme qui a vécu des erreurs graves et pourtant que Dieu a gardé sous sa main protectrice, que Dieu a formé, que Dieu n'a pas accusé, mais a élevé quand le temps était venu. Et Pierre nous dit d'être alerte. Nous sommes en état de crise, on est conscient que celui qui est comme un lion n'est pas loin. La parole nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux de souffrance qui sont décrits dans ce passage. Il y a les souffrances de la vie qu'on a tous vécues. La vie n'est pas un chemin parfait, tout rose. Il y a bien sûr des souffrances, ça en fait partie. Hein? Mais alors qu'on rencontre Dieu, il y a une nouvelle promesse qui nous est offerte, d'être accompagné dans ses souffrances, d'être élevé, d'être fortifié, rendu inébranlable. Ça, c'est une belle promesse, de pouvoir comprendre que quand je donne ma vie à Dieu, quand je lui confie ma vie, je ne vais pas être au contrôle de tout, je ne vais pas tout tenir dans mes mains, mais s'il y a des souffrances qui viennent, je peux me dire, je suis sous la main protectrice de Dieu. Alors, il y a un autre niveau de souffrance qui est décrit ici, c'est qu'en tant que chrétien, en tant que personne qui appartient au royaume de Dieu, la Bible nous parle de l'ennemi de nos âmes. On ne parle pas beaucoup de l'ennemi de nos âmes, on dit juste le diable, l'accusateur, l'ennemi. Il y a des versets prophétiques qui parlent, ça aurait été un être créé par Dieu, hein, à la base bon, mais qui a choisi, parce que Dieu donne le choix à sa créature, de se détourner de la volonté de Dieu, de choisir consciemment de dire, la gloire n'est pas pour toi, mais elle est pour moi. Et cet être est devenu une espèce d'incarnation, une représentation, il y a une espèce de jalousie qui est développée par cet être pour nous, les créatures qui ont été créées à l'image de Dieu. C'est intéressant de voir qu'il est comparé à comme un lion. Pourquoi est-ce qu'il serait comparé comme un lion? Quand on pense au lion, nous en tant que chrétiens, on pense au lion de Juda, Jésus. Jésus est appelé le lion de Juda dans la parole, le lion qui vient sauver. Mais à l'époque des Romains, les lions c'était la reine. C'était la reine qui c'était les gladiateurs, je ne sais pas si vous avez le film Gladiateur où il y a des lions dedans. C'était ces gens qui étaient déchiquetés par des lions qu'on avait affamés pendant des semaines. C'était pas une partie de plaisir. À Rome, les lions, ils étaient dans l'arène et ils dévoraient ceux qui s'y trouvaient. On n'est pas surpris par un lion si on est réveillé. C'est pas une surprise. Tu l'entends rugir de loin. Il est possible qu'à plusieurs occasions, il bondisse d'un coup, mais tu peux être certain que d'une façon générale, tu le verras arriver si tu es sur tes gardes. Il est possible qu'en tant que chrétien, il y a des moments où on subit une pression spirituelle de l'ennemi. Il est possible de sentir une pression spirituelle de l'ennemi, qu'on se sente attaqué dans nos vies par nos circonstances, parce que le message qui t'habite, le message qui vit en toi, si tu as une relation avec Dieu, il peut transformer ton environnement. Il faut imaginer qu'il y a un royaume des ténèbres qui a pris possession des choses que Dieu a établies. Et que nous, en tant que personnes qui sommes habitées par Dieu, on a la possibilité de délivrer les gens de ces choses-là. Je me rappelle avoir rencontré une jeune fille qui s'appelait Irene, qui était norvégienne, et qui disait ceci, « Benjamin, Jésus, c'est la joie. » Je dis « Oui. » « Et Jésus, il vit en moi. » Je dis « Oui. » Donc ça veut dire que quand je vais quelque part, il y a la joie avec moi. Je dis « Tout à fait. » « Benjamin, Jésus, il amène la guérison. » Je dis « Oui. » « Et Jésus, il vit en moi. » Tout à fait. Donc ça veut dire que lorsque je marche quelque part, j'amène la guérison avec moi. Ça semble un petit peu bizarre de mettre ça comme que dans notre société assez moderne, assez carrée, scientifique. Mais il faut bien imaginer que la vérité de la parole, elle n'est pas seulement scientifique, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Il y a quelque chose qui a été fait à la croix quand Jésus a pris les péchés de l'humanité et quand il a décidé de payer à notre place, de se sacrifier, de porter toutes nos fautes à notre place. Imaginez, on arrive devant Dieu, cet être parfait, cet être invincible, beau, grand, et on se regarde à nouveau et on voit qu'on est plein de tâches. Je pense que la personne qui nous accueillerait, c'est peut-être même pas tellement Dieu, je pense que ce serait nous-mêmes. On verrait la splendeur de Dieu, on se regarderait en retour et on dirait « Moi, je suis pas digne de t'approcher, Seigneur. Moi, je suis pas digne de te toucher. Je suis sale, je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint. » Et ce que Jésus a fait, il a décidé d'enlever notre manteau de culpabilité, d'enlever notre manteau de péché. Et il a décidé de dire « Ok, moi je vis une vie parfaite à ta place, et si tu le désires, je te donne mon manteau et je prends le tien. » Et c'est ça ce que Jésus il a fait. Alors quand on se présente devant Dieu, c'est pas juste avec nous, mais c'est par le nom de Jésus qu'on se présente devant le Père. Et il ne faut pas penser que le Père, cet être justicier qui voulait notre mort, non. Quand Jésus fait des choses sur terre, il dit « Moi j'accomplis les choses que le Père m'a demandé de faire. Moi j'accomplis la volonté du Père. » Donc on a un Père qui nous aime, qui a décidé de faire quelque chose en tant que Dieu, de nous offrir une voie vers lui. Et quand on est habité par cette vérité, quand on est habité par cette transformation, on peut voir des choses extraordinaires se passer. Parfois des miracles, on a déjà entendu je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à des miracles, des gens qui étaient guéris de façon miraculeuse, on a prié pour des gens et des gens ont été délivrés, mais vraiment c'est des miracles dans nos émotions. Pardonner à cette personne qu'on n'était pas capable de pardonner, de pouvoir vivre avec des circonstances traumatisantes et même de trouver un moyen d'encourager les autres qui sont passés par là. Des miracles au niveau de nos relations humaines, de nos émotions, de nos circonstances, des miracles financiers. Moi, je me rappelle très bien, je vois des gens, ici, il y a un post sur Facebook, une fille disait, voilà, c'est extraordinaire, j'ai arrêté mon contrat un jour et le lendemain, je recommençais un CDI dans une autre boîte. Je ne sais pas comment les circonstances se sont emboîtées comme ça, mais je sais que Dieu avait quelque chose à faire là-dedans. Je trouve ça magnifique. Dieu, il prend soin de nous. Et alors, on peut se dire, voilà, il est possible qu'en tant que chrétien, voilà, l'ennemi veut ma perte parce que si je vais annoncer aux gens qui sont dans la souffrance, dans l'alcoolisme, liés par des choses, qu'il y a une voie pour eux, qu'il y a quelque chose de, il y a une meilleure façon de vivre notre vie, pas par nos propres forces, mais par celle qui nous donne, on devient ambassadeur d'espoir. Et les ambassadeurs, parfois, ils peuvent être attaqués. Est-ce que ça doit nous faire vivre dans l'anxiété, le souci? Est-ce que ça doit nous inquiéter de se dire « Ah, si je suis chrétien, mais je vais avoir des problèmes. » Alors la première chose que j'aime bien entendre un ami pasteur qui s'appelle Tony, hein, que Pascal connaît, il dit toujours « Ah, mais t'inquiète pas, si t'étais pas chrétien, t'aurais aussi des problèmes. Hein, » On pense que parfois la souffrance, c'est le monopole des chrétiens, mais pas du tout. Hein, y a des gens qui souffrent et ils connaissent pas Dieu. La vérité, c'est qu'on a la puissance de pouvoir appeler le nom de Jésus dans les moments difficiles. Et que c'est pas ces aboiements de l'ennemi qui doivent nous faire peur. La peur, c'est un sentiment qui vient de Dieu. Ça peut vous sembler bizarre. Il existe 300 sentiments de bas, la peur, la tristesse, la joie. À quoi ils servent toutes ces choses-là? Quelle peur vient de Dieu? Alors la peur, qu'est-ce que ça crée dans notre corps? Vous avez une bête féroce devant vous. Hein? Voilà, ça va lâcher de l'adrénaline dans le sang. Alors, soit vous vous battez, soit vous vous courez, mais dans les deux cas, l'adrénaline nous rend plus fort, oxygénise le corps, on peut courir plus vite, on peut se battre plus fort. Je vois, il y en a qui disent, moi je me casse, hein, je sais pas ce que tu parles, mais moi je m'en vais. Hein. Il y en a qui veulent courir vers le danger, mais bon, des gens fous. Alors, la peur c'est ce sentiment, mais toutes les peurs ne sont pas les mêmes. Vous savez que j'ai vécu une semaine amusante. Je suis arrivé à l'aéroport du Dublin mercredi en sachant que notre vol avait été annulé. On a reçu un message de Ryanair. Il y avait 4000 personnes devant nous qui étaient rassemblées et à la recherche d'une solution, tout à fait perdues. Après une file de 4h30, il était possible d'obtenir un hôtel payé par Ryanair en insistant beaucoup. Parce que voilà, Ryanair ne donne rien gratos, mais là ils étaient obligés. C'est la loi. Et voilà, par des circonstances, j'ai pas dû faire une file de 4h30, ce qui m'a beaucoup plu. On a été pris dans un bus pour aller dans un hôtel 4 étoiles, pour y passer une nuit, pour retourner après à l'aéroport. Notre vol annulé, on était mercredi, devait repartir vendredi, il fallait juste être dans l'attente. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Décharge-toi sur lui. Lorsque on est dans l'inquiétude, lorsqu'on est dans le stress, on peut devenir un peu plus sensible dans nos émotions. On a du mal à prendre des décisions réfléchies. Quand j'étudie un peu la psychologie, les psychologues vont dire ne prends pas de décisions importantes dans les temps de crise. Parfois, il n'y a pas le choix, mais dans la mesure du possible, ne prends pas de décisions importantes dans les temps de crise. Pour être sûr de ne pas le regretter par la suite, des décisions irrationnelles, parce qu'on est dans le moment où on dit on veut arrêter cette situation par tous les moyens possibles. Et tout ça, c'est parce qu'on oublie le verset 6. Qu'est-ce qui est mis avant de rester sous la main protectrice de Dieu ? Humiliez-vous. Humiliez-vous, ça veut dire quoi ça ? L'anxiété, ça peut être une conséquence directe d'une forme de fierté dans nos vies. L'anxiété, ça peut être une forme directe d'une forme de fierté dans nos vies, qui ronge le cœur. On peut être fier et centrer les choses sur nous et sur nos besoins. Il y a différentes peurs qui sont mises à jour dans les difficultés. Alors je me rappelle, la tempête faisait rage, il y en avait, ils avaient peur de mourir. C'était une tempête de neige, on était au chaud à l'intérieur, mais ça peut être stressant pour certaines personnes. On avait 4000 personnes, donc il y avait des gens de tout horizon, qui avaient vécu des vies très différentes. Donc voilà, il y en a, ils avaient peur de ne pas, survivre, qu'est-ce qui va se passer, c'est incertain, on n'a pas toutes les informations. Le lendemain, ils avaient annoncé que dans l'après-midi, la tempête allait tomber tellement fort qu'on ne pourrait plus voir sa main quand on va à l'extérieur. On regarderait sa main, on ne verrait plus rien. Et donc le vendredi, ils ont décidé de fermer l'aéroport pour notre vol de remplacement. On était jeudi, on apprend que notre vol est à nouveau annulé. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les gens à Rome subissaient des persécutions parce qu'ils étaient chrétiens. Et Pierre leur dit, dans le monde, il y a d'autres chrétiens qui subissent les mêmes choses de vous. Et moi, je veux qu'on puisse mettre des mots sur les circonstances de nos vies, les moments difficiles, et que tu saches que dans le monde, il y a des gens qui vivent la même chose que toi. Et que la réponse est la même pour toute personne. On peut se tourner vers Dieu. Le lendemain, il y a certaines personnes qui disent que le diable, c'est un chien qui aboie, je vais finir là-dessus, mais qui ne mord pas, ça dépend un petit peu. Le diable, l'ennemi, est-ce qu'on donne des dents à l'ennemi ? Est-ce qu'on lui permet de nous mordre ? Est-ce que j'ai laissé une place dans ma vie à l'ennemi pour venir me mordre ? Après être retourné à l'aéroport pour apprendre que Ryanair ne donnait plus de vol, on a appris trois choses qui est important de savoir lorsqu'on voyage. Notez-les parce que c'est vraiment formidable. C'est la responsabilité de la compagnie de pourvoir un vol le jour même ou le lendemain. C'est pas Ryanair qui va me dire ça. C'est la responsabilité le jour même ou le lendemain. S'ils peuvent pas, ils doivent nous envoyer sur une ligne partenaire. Ça alors, j'en apprends des choses. Et s'ils ne peuvent toujours pas, le passager a la liberté de rentrer chez lui par ses propres moyens et Ryanair doit rembourser les frais qui ont été émis par la personne. Alors moi j'avais tout préparé parce que quand il n'y a rien à faire, moi je m'ennuie, je suis comme un lion en cage. Donc j'avais tout préparé, bateau pendant 3h30 de Dublin à Holyhead en Angleterre, 4 heures de train jusqu'à Londres et puis 2 heures de retard jusqu'à Bruxelles. C'était parfait, c'était nickel. Et là, boum, le port est fermé. Seigneur, je veux rentrer chez moi. Il y a un repas le samedi soir à la jeunesse. Un avion partait le vendredi avec une compagnie luxembourgeoise. Alors au lieu de prendre le bateau, on se dit, bon, on va prendre cet avion-là. Il part le vendredi à 16h. Ça nous amène au Luxembourg. Luxembourg, Bruxelles, ça va, ça passe. On prendrait une voiture, on louerait, on trouverait une solution. Et là, l'Irlande déclare état d'urgence, alerte rouge pour vendredi. Plus de train, plus de bateau, plus de bus, plus rien. Restez chez vous et attendez que ça passe. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Alors on a dû trouver un endroit où dormir. Et Dieu a pourvu un endroit magnifique pour les deux jours suivants, pour un prix abordable vu les circonstances. À nouveau, tous les frais qu'on devait faire, on doit les soumettre à Ryanair et la compagnie luxembourgeoise pour récupérer ces frais-là. Et donc, on était un peu bloqué par les circonstances. Et là, ça me fait penser qu'on a tous notre point de cassure, notre point de limite, le point où on va casser. Moi, je me suis dit, dans toutes ces circonstances-là, je peux me poser la question, est-ce que je fais confiance à Dieu ou en ma carte de crédit? Qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas mon portefeuille? Est-ce que je ferais preuve du même niveau de foi? Parce que là, je n'aurais plus rien. Pas de téléphone, pas de portefeuille. Là, ça commence à devenir un peu plus intense. Parce que voilà, ici, on a trouvé sur un site qui s'appelle booking.com un hôtel qui avait un spa. Voilà. Intéressant. C'était chouette. Et là, il s'est passé quelque chose. On était vendredi dans l'hôtel, dans le spa. Et ils avaient un jacuzzi à l'extérieur. Je vois vos têtes, c'est trop drôle. Et alors, il y avait la tempête autour de nous, littéralement, et on était à l'extérieur dans le jacuzzi. Mais quelle image intéressante. Il y a vraiment la mort autour de nous, et nous, on est au chaud dans l'eau, avec des bulles. C'est une image qui m'a franchement fait sourire. Parce que c'était dur d'arriver jusqu'à l'hôtel. Hein. C'était du stress, il y a eu des circonstances bloquées pendant des dizaines d'heures à l'aéroport. On ne sait pas où on va, personne ne sait quoi. On demande une information à quelqu'un, il sait bien à moitié, puis quelqu'un d'autre dit autre chose. C'était très 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 farfelu. Il faut prendre les choses en main et on arrive à cet hôtel-là, à délivrance du Seigneur, dans le jacuzzi. Et là, il y a la tempête qui fait rage. Comment est-ce que Dieu va utiliser ces circonstances-là dans notre vie? Je ne pense pas que c'est Dieu qui envoie les problèmes. J'en suis même certain. Dieu n'envoie pas les problèmes dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Dieu, il ne teste pas, il enseigne. Il n'envoie pas des tests dans nos vies. Il n'envoie pas les souffrances. Hein? Parfois, la vie prend son cours hein, parce qu'il a décidé, il y a des milliers d'années, de lancer le destin de l'humanité en marche. Et c'est une boîte qui tourne. Hein? Voilà, il a dessiné les enrouages, la gravité, la météo, voilà, il a tout décidé de lancer, et puis ce qu'on en fait, c'est notre choix. Ce qu'on en fait, c'est notre choix. Par contre, ce que Dieu aime faire, c'est prendre des circonstances difficiles et nous expliquer qui il est. Prendre des circonstances qui nous mettent de la pression et nous dire, voilà qui moi je suis dans ta vie. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui prend soin de toi. Je suis celui qui te fait amener à Dublin, dans une tempête de neige pour finir dans un jacuzzi. Je gratte ma tête. Moi, j'aurais préféré rentrer, je vous le dis. J'aime pas être dans des hôtels pendant des jours, ça m'intéresse pas. Je préfère l'action. Mais, je pense qu'il y a un moment où on peut se dire, Seigneur, est-ce que je suis bien sous ta main? Est-ce que je reste là? Est-ce que je me fais conduire par la peur dans les circonstances difficiles? Ou est-ce que je laisse ma foi en toi me guider? Me dire, ok, je vais moins stresser, parce que quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi. Si je regarde maintenant cette semaine que j'ai passée, on est rentré avec le vol qui avait 2 heures de retard. On l'a eu, enfin. Quand on a vu l'avion, on était très heureux. C'était hier, on a atterri vers 19h au Luxembourg, et quelqu'un m'a amené ici. Quand je regarde en arrière, les circonstances n'auraient peut-être pas changé, mais les émotions qui nous habitent, elles peuvent tout à fait changer. On peut se dire, ok, je vais stresser pendant 6 jours ou je vais pas stresser pendant 6 jours. On peut prendre cette décision-là. Et quand on vit des choses comme ça, je trouve que ça met Dieu un peu en lumière sur qui il est, ce qu'il veut dans nos vies. S'il n'y a que moi qui décide dans ma vie, s'il n'y a que moi qui décide des choses, ben là, je peux paniquer. Hein. Je peux vraiment paniquer parce que on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, si je sais que Dieu prend soin de moi, si je sais que Dieu est présent, alors je peux remettre mes soucis à lui. Parce qu'à la fin, c'est lui qui va porter les choses. Et je rentrerai quand je dois rentrer. Je suis perdu dans mes notes. Il y a certains qui disent que le diable, c'est un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Est-ce qu'on a donné des dents à ce chien ? Le Dieu de toute grâce, verset 10, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera par lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La souffrance, elle a un mandat limité dans nos vies si on appartient à Jésus. La souffrance a un mandat limité dans nos vies si on appartient à Jésus. Si on décide de lui appartenir. Il faut juste se décider. Il ne faut pas douter. On dit, Seigneur, moi je donne ma vie à toi. C'est fini, c'est décidé. Il n'y a pas de doute à avoir, même si les circonstances deviennent difficiles. Si on a fait cette prière à Dieu, il l'a prise, je vous garantis qu'il l'a prise et qu'il la tient fort, pour nous parfois. Quand on n'y croit plus, il la tient à notre place. Et il est marqué ici, après que vous aurez souffert un peu de temps. Dieu rend la souffrance limitée dans le temps. À un moment donné, s'il voit que, oula, il va écarter de sa main protectrice, il va dire, ça suffit. Le faux lion, à un moment donné ou à un autre, tu peux te dresser contre lui. Tu peux lui dire de s'éloigner de toi. Oui, il est possible qu'il y ait un ennemi qui veut détruire nos vies, utiliser les circonstances pour le faire, provoquer notre ruine financière, provoquer la destruction de notre couple, notre famille. Oui, parfois être chrétien, c'est être dans une espèce d'état d'urgence. Mais sache que Dieu, il est là, et que si on garde nos yeux fixés sur lui, il nous rend inébranlables. Si on garde nos yeux fixés sur lui. Et parfois les circonstances font qu'on regarde ailleurs, on est inquiet avec les choses terrestres. Mais Dieu, il va se souvenir de la promesse qu'on a faite, où il a dit, Jésus, je te confie ma vie, je me confie en toi. Et il va s'appuyer là-dessus, Dieu, pour venir avec sa main prendre soin de nous. Alors si je devais donner un titre à ce voyage, c'est que personne ne panique. Que personne ne panique. Surtout ma mère. Que personne ne panique. C'est inquiet les mamans. Pour finir, quelles leçons tirer de tout ça? On n'a manqué de rien. Normalement, si on va faire le test, Ryanair et Luxair devraient nous rembourser tous les frais qu'on a avancés. La peur peut nous aider, mais on ne doit pas se laisser dominer par celle-ci. On doit pouvoir faire confiance en Dieu, lui confier nos stress. Et puis quand on regarde en arrière, on peut vraiment se dire, ok, j'ai appris un peu plus qui Dieu était, qui prend soin de nous. On peut vraiment tirer des leçons des choses qu'on vit. Et s'il y a quelque chose qu'on regrette, si on regarde en arrière, on se dit, ah là, ça n'allait pas. C'est pas une fin en soi. Il y aura d'autres opportunités, d'autres circonstances où Dieu peut nous apprendre des choses. Je vous garantis que si je devais tout refaire ici, en sachant déjà toutes les lois par rapport aux compagnies d'aviation, je le ferais deux fois mieux. Trois fois mieux. Et je pense qu'on peut vraiment prendre ça pour nous comme une leçon spirituelle en se disant, ok, Seigneur, je vais passer des moments difficiles. Mais comme je sais que tu m'accompagnes, tu donnes un but à toute chose qui se passe dans ma vie. Donc, peut-être, j'ai l'impression d'être sorti presque vivant de cette expérience-là. Je ne connais pas l'expérience qu'il y a dans ta vie qui peut être difficile. Mais la prochaine que tu vivras, tu te sentiras encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Jusqu'à ce que tu sois inébranlable. Jusqu'à ce que tu regardes en arrière et quelqu'un vient paniquer te dire « Oh, il y a ça qui s'est passé dans ma vie. » Tu diras « Ah oui, d'accord. Courage, ça va aller. » Et tu souriras. Pourquoi? Parce que tu as vécu des choses avec Dieu. Bon, je ne dis pas que tu ne vas pas montrer de la compassion à cette personne, attention. Hein. Mais tu regarderas en arrière et tu sentiras que Dieu t'a fait grandir. Amen. On va prier. Père Céleste, merci pour ta main protectrice qui est vraiment comme un parapluie sur nos vies. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nos circonstances familiales, émotionnelles, physiques, financières. Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur. Et on veut vraiment te confier nos vies, Jésus. On veut pas être à moitié sous ta main. On veut rester en dessous. On veut s'humilier, Seigneur. On veut pas avoir la fierté de penser que, eh bien, on sait tout, Seigneur, mais on veut pouvoir vivre notre vie à fond avec toi. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne présente dans cette salle, pour chaque personne qui apprend à te connaître. Viens te révéler d'une façon plus intime à chacun d'entre nous, Seigneur, qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, on puisse voir un clin d'œil de ta part. Même pas un clin d'œil, Seigneur, toi qui arrives à bras grands ouverts et qui dises « Je suis ton Dieu, je suis le Dieu fidèle, je suis celui qui prend soin de toi ». Je veux encourager chaque personne dans cette église, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui souffle dans les cœurs, de savoir que tu es un Dieu qui nous amène la victoire, Seigneur. Pas qui nous accable, pas qui nous rend malheureux, mais qui nous amène la victoire. Seigneur, s'il y a des choses dans la vie qui sont difficiles, si on vient d'un milieu difficile, que ce soit dans nos familles ou au niveau financier, tu es capable de changer les circonstances. Tu es capable de changer les choses. Sois loué, Seigneur, parce qu'on peut se confier en toi. Père, je te remercie parce que tu m'as protégé pendant ce voyage ainsi qu'Adam. Je te remercie parce que physiquement, Seigneur, j'ai pu vraiment voir ta main dans mon corps, au niveau de mon dos. Je te rends gloire, Seigneur, parce que ça a vraiment un bien été, Seigneur. Seigneur, merci pour cette belle image que tu m'as donnée, Seigneur, pour l'église ce matin. Que quoi qu'il arrive, tu vas tenir nos circonstances. On te confie tous les projets de cette église, Père Céleste. tous les projets futurs, Père Céleste. Le projet de Francesco pour l'Espagne, Seigneur. Que tu puisses le bénir et l'accompagner, pourvoir pour lui, Seigneur. Pour chaque personne qui voudrait se former pour toi. Merci, Seigneur, parce que c'est jamais, il n'y a jamais de fin en soi. Tu peux prendre toutes circonstances et nous amener là où on doit aller pour te servir. Merci, Seigneur, pour toutes les familles en ce lieu. Je prie que tu puisses rapprocher les couples, rapprocher les familles, Seigneur. Bénir, Seigneur, toute personne qui est venue en ce lieu pour te louer et te célébrer. Et on se tient devant toi et on veut recevoir une part de toi en plus. Un moment dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans la vie. Viens nous l'aider à pouvoir la mettre en action dans la vie chaque jour. En ton nom tout-puissant Jésus. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Je sens dans mon cœur que le Seigneur veut parler à certaines personnes spécifiques. Je vous invite à juste passer un moment dans la louange et à juste écouter la voix du Saint-Esprit qui veut peut-être vous dire quelque chose.